Les grands destins féminins.
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 C'est des destins féminins qui mériteraient d'être plus connus et appréciés par la population.
Oui, on parle souvent de vie de femme, mais pas assez souvent de destin féminin.
Katia Kraft, volcanologue et vulgarisatrice.
Elisabeth Alexandra Marie Windsor, la reine d'Angleterre.
Rachel Louise Carson, biologiste et écrivaine.
Angela Merkel, politicienne.
Jeannette Zacharias Zapato, boxeuse.
Simone Sagouin, une résistante.
Ada Egerberg, une footballeuse.
Dorothy Hodking, une chimiste cristallographe.
Valentina Terekova, première femme astronaute.
Magla Streameuse.
Marie Shelley, femme de lettres.
Mary-Jane Reid, pirate.
Petra Herrera, révolutionnaire.
Delia Derbyshire, musicienne et compositrice de musique électronique.
Fulan Devi, la reine des bandits.
Beyoncé, chanteuse, danseuse, actrice, compositrice.
Marie-Temple Grandin, une chercheuse en zootechnie et en sciences animales.
Hubertine Auclair, militante féministe.
Moi, j'ai choisi Maya Jennison. Elle est médecin, ingénieure, professeure, diplômée en génie chimique et, la cerise sur le gâteau, elle était astronaute. Et c'est la première femme afro-africaine qui était astronaute. Quand même impressionnant, même si on pourrait se dire que c'est juste une femme comme les autres. Au départ, on voulait pas qu'elle soit astronaute. On voulait juste d'accord. Ses parents disaient « Ouais, si tu veux, tu pourrais être scientifique. » Elle n'était pas du tout aidée parce que dans son école, bah, quand on lui disait « Ouais, qu'elle veut être astronaute bah, », on se moquait un peu d'elle. Elle a postulé. Là-bas, à la NASA, on lui a juste dit bah c'est bon, on t'a pris, t'as un cursus magnifique et tout. Elle est devenue astronaute, nu 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 astronaute.
Katia Kraft, c'est une Alsacienne née en 1942 qui, à 14 ans, découvre la passion de sa vie. Les volcans. Il est donc logique qu'elle veuille devenir volcanologue. Sauf que ses parents ne sont pas d'accord et ils décident qu'elle doit être institutrice. Elle plie, elle devient institutrice, puis elle passe une maîtrise en chimie, puis elle finit par devenir volcanologue. Et c'est à l'université, en 1970, qu'elle rencontre le seul homme capable de partager cette passion, et c'est Maurice Kraft, avec qui elle va se marier la même année. Le couple passe leur vie sur les volcans et ils voient en tout 175 éruptions dans leur carrière. Mais Katia Kraft est surtout connue pour ses projets de vulgarisation. C'est elle qui a posé les prémices du parc Vulcania, que l'on connaît aujourd'hui. C'est elle qui a fondé la maison du volcan à La Réunion. Et surtout, elle a créé des dizaines de films destinés à avertir les populations du danger que représentent les éruptions volcaniques. Malheureusement, le couple meurt lors d'une éruption au mont Onsen, au Japon, en 1991, pendant que l'un de ses films motive à évacuer une énorme population pour les protéger d'une éruption volcanique aux Philippines.
Le destin de Rachel Louise Carson, elle est une biologiste marine et militante écologiste américaine. Enfin, je l'ai choisie, c'est surtout pour ça, parce que grâce à son livre, elle a réussi à faire changer des lois sur les biocides et les pesticides. Et elle a même reçu un prix à son nom qui, depuis 1991, est décerné à plein de gens qui défendent l'environnement grâce à elle.
Dorothy Hodking est une chimiste cristallographe britannique née au Caire en 1910. Et très jeune, elle développe une véritable passion pour la chimie. Et plus tard, elle étudie au Somerville College, ainsi qu'à l'université de Cambridge, où elle apprend le potentiel de la diffraction par rayon X pour déterminer la structure des protéines. Et en 1960, elle est membre de la Royal Society, ce qui signifie qu'elle bénéficie à long terme d'un soutien pour ses recherches. Et elle découvre notamment la structure de l'insuline et son importance dans le traitement pour le diabète. Et elle reçoit notamment de nombreuses distinctions, comme le prix Nobel de chimie en 1964.
Nous avons, dit-elle, commencé avec Vygotsky notre vol cosmique jumelé. Une liaison sûre par radio a été établie entre nos vaisseaux cosmiques. Nous naviguons à une distance rapprochée.
Tous les systèmes de nos vaisseaux fonctionnent normalement.
Valentina Terekova, première femme astronaute. Valentina Terekova est née le 6 mars 1937 en URSS. Elle est issue d'une famille dans un milieu social assez modeste. Son père était un conducteur de tracteur dans une ferme collective et il meurt pendant la guerre d'hiver opposant la Russie et la Finlande. Elle devient ensuite ouvrière à l'âge de 17 ans avant de se passionner pour le parachutisme. C'est une information assez importante pour le reste de l'histoire puisque ça influencera sa carrière d'astronaute. En effet, après le vol de Youri Gagarine, un soviétique, le premier homme à aller dans l'espace, l'Union soviétique, toujours en conflit, enfin en guerre froide avec les USA, décidera d'envoyer la première femme dans l'espace pour pas que ce soit les USA qui le fassent. Ça mènera donc à la création d'un programme d'entraînement d'astronautes. Sur les 400 candidats, 5 seront retenus, dont Valentina Terekhnova, grâce à ses capacités en parachutisme, qui sont un critère de sélection important pour l'époque. Suite à cet entraînement à coups de centrifugeuses et de largage au-dessus de la mer Noire en parachute avec un équipement de survie de 130 kg, puisque les navettes spatiales brûlaient dans l'atmosphère et explosaient au sol au lieu de rester à peu près intactes comme aujourd'hui, les astronautes étaient obligés de tout simplement faire un saut en parachute après avoir passé l'atmosphère, parce que s'ils le font avant, ils brûlent. Donc Valentina Terekhnova passe l'entraînement et devient donc la première femme astronaute. Les 4 autres sont recalés. Elle vole le 16 juin 1963 à 12h30, pour ceux qui veulent savoir, dans la mission Vostok 6, qui consiste à faire 48 orbites autour de la Terre en 70 heures. Elle réussit la mission avec succès, revient sur Terre et devient une sorte d'effigie du parti communiste russe. Mais son nom est vite effacé de l'histoire à cause de Neil Armstrong, qui, 6 ans plus tard, marchera sur la Lune.
Jeannette Zapatas, boxeuse. Jeannette a commencé la boxe très tôt et s'est entraînée dur pendant une grosse partie de sa vie, en partie grâce à son père qui l'a encouragée à faire de la boxe. Et elle a commencé dans le professionnel à 16 ans. Malheureusement, elle a dû arrêter à cause d'une blessure à la jambe. Elle est revenue à 18 ans et a continué ses efforts pour s'entraîner malgré ses résultats qui n'étaient pas très satisfaisants. Par exemple, 4 défaites dont 3 par KO pour 2 victoires. Pour un boxeur, c'est pas des très bons nombres. Mais elle a continué de boxer et de faire de son mieux malgré tout, sans arrêter sur son rêve. Malheureusement, il y avait eu le combat de trop et sa carrière a été arrêtée trop tôt. Les femmes aussi peuvent être insouciantes, même si c'est plutôt un stéréotype d'homme. Et ça prouve qu'elles peuvent être aussi travailleuses que les hommes.
Ada Gerberg, depuis tout le petit, voulait être une footballeuse. Maintenant, elle est une footballeuse internationale norvégienne. En 2018, elle remporte le premier ballon d'or féminin. Ada Gerberg a utilisé la Coupe du Monde féminine de football 2019 afin de dénoncer les inégalités de salaire, des conditions ainsi que de reconnaissance de ligue féminine.
Delia Derbyshire est une musicienne et compositrice donc de musique électronique. Et pour en arriver là, elle aura fait des études de mathématiques et de musique. Et elle va essayer de se lancer dans la musique en 1659, mais elle va se faire refuser par la maison de disques Decca Records, car ils disent ne pas employer de femmes, tout simplement. Donc elle va travailler pour l'ONU dans un autre métier, avant de revenir un an plus tard, en 1960, à la BBC, directrice adjointe de studio, où elle n'est absolument pas censée composer. Et pourtant, elle le fera tout au long de sa carrière à la BBC. Notamment le générique culte de Doctor Who. Et d'ailleurs, le compositeur initial, Roy Greiner, va être impressionné par son travail et va demander à la BBC de la créditer. Sauf que la BBC répondra que non, car c'est une composition qui appartient au studio. Et donc, elle n'a pas à apparaître tout simplement sur la création de cette œuvre. Elle va créer énormément de musique et de sons de 1960 à 1970, où sa musique sera ensuite jugée trop lascive et trop sophistiquée pour la BBC. Elle se dirigera vers un domaine, enfin d'autres domaines tels que le cinéma, le théâtre et concrètement la musique électronique du coup. Et pour pouvoir se permettre de faire de la musique électronique, elle va encourager la création de studios privés ainsi que créer un groupe avec deux autres compositeurs, les White Noise. Elle arrêtera la musique en 1970 car l'arrivée du synthétiseur bousculera les méthodes de travail de la musique électronique et du coup ça ne lui plaira plus car elle préférait la manière puriste de faire de la musique électronique. Elle reviendra un petit peu en 1990 mais ce sera très 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 fugace.
Petra Herrera, c'est une révolutionnaire qui a donc contribué à la révolution mexicaine à partir de 1910. Toute sa vie, avant et après la révolution, est complètement inconnue. C'est-à-dire qu'on ne la connaît que pour la révolution, on ne sait pas ce qui lui arrivait avant et après. D'ailleurs, sa date de mort est inconnue. La révolution mexicaine, c'est différentes armées qui s'affrontent pour prendre le pouvoir du Mexique. Elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rejoindre l'une des armées, qui est celle de Francisco Villa. Petra, vu qu'à l'époque, les femmes ne sont pas acceptées dans les armées, elle va prendre le pseudonyme de Pedro et elle va cacher sa poitrine, prendre une voix plus grave et tous les matins, elle fait semblant de se raser pour pouvoir se faire passer pour un homme auprès des différents révolutionnaires. Elle se démarque des autres révolutionnaires par des grandes capacités au combat et en particulier avec les explosifs. Et après avoir accompli plusieurs exploits, elle va finalement décider de révéler son identité, le fait qu'elle est une femme aux autres révolutionnaires. Et ils vont accepter de la garder dans l'armée grâce à ses exploits et à sa grande force. Elle va même mener la bataille de Torreón le 30 mai 1914, qui est une grande bataille décisive de cette révolution. Et là, elle a gagné. Mais à l'issue de la bataille, Francisco Villa refuse de la promouvoir et en plus fait taire que c'est elle qui est à l'origine de la victoire de la bataille. Elle décide donc de quitter l'armée de Francisco et de former son propre bataillon avec environ un millier de femmes, seulement des femmes, et elle va essayer du coup d'aller voir une autre armée, celle des ennemis de Francisco Villa, et qui est donc l'armée de Venustiano Carranza. Il essaie de contribuer aux droits des femmes, et ça fait partie de ses promesses si jamais il réussit à prendre le pouvoir du pays. Et après avoir accepté Petra dans ses rangs, et en plus de ça lui avoir promu au rang de colonel, Petra va l'aider à arriver jusqu'au poste de président, et donc à gagner entre guillemets la révolution. Même s'il sera malheureusement, assassiné 3 ans plus tard. Mais du coup, lorsque Carranza est élu président, Petra n'a plus vraiment d'utilité en tant que révolutionnaire, ni dans l'armée, parce qu'elle n'est pas policière, elle s'est juste attaquée entre guillemets. Elle va quitter l'armée de Venustiano Carranza, et on ne sait pas ce qui lui arrive à partir de là. Elle disparaît complètement. Et j'ai choisi ce personnage, déjà parce qu'elle est très peu connue, et qu'on a du mal, je pense, en ce moment, à s'imaginer une révolutionnaire qui a participé à beaucoup de batailles, en a gagné, a mené des bataillons entiers de personnes, alors que c'est une femme et que c'est quand même un monde très masculin.
Mary Jane Read est née en 1685 en Angleterre, l'une des deux seules femmes pirates du XVIIIe siècle. En effet, lors de son enfance, il va se passer quelque chose de déterminant pour sa vie d'adulte. Son grand frère va mourir et il recevait une pension de sa grand-mère. Elle est donc forcée de se déguiser en son grand frère pour continuer de recevoir la pension et survivre. Plus tard, elle s'enrôlera dans l'armée où elle rencontrera l'amour, avec qui elle ouvrira une auberge durant 4 ans. Son mari mourra malheureusement et elle décidera de s'enrôler dans de la piraterie. Après quelques années de piraterie, elle se mettra au service de l'Angleterre en tant que corsaire, mais sera attaquée par l'équipage de Jack Rackham, l'un des plus grands pirates de l'époque, et le rejoindra, aux côtés d'Anne Bonny, la deuxième femme pirate du XVIIIe siècle. C'est une personnalité assez inconnue par rapport au fait qu'elle a fait partie de l'équipage du plus grand pirate du XVIIIe siècle et que personne ne connaît son nom. J'ai choisi cette personnalité pour le fait qu'elle développe les valeurs de l'émancipation, qui sont très rares à l'époque chez les femmes, et qu'elle a prouvé qu'elle était l'égale des hommes, c'est-à-dire que pendant certains duels, quand elle battait un homme, elle lui montrait après que c'était une femme juste avant de le tuer. L'un de ses faits d'armes les plus marquants, c'était le fait qu'elle a résisté à la marine durant 8 heures,
avec seulement Anne Bonny comme coéquipière, avant de se faire capturer. Elle a évité la pendaison en disant qu'elle était enceinte, mais elle est morte 3 mois après de la fièvre jaune.
Alors, Magla, de son nom de naissance Barbara, avant de commencer à faire des streams, elle a eu une enfance un peu difficile. Elle s'est fait harceler, etc. au lycée et au collège, elle a eu peu d'amis. Elle s'est réfugiée dans les jeux vidéo, en se créant une petite bulle. Et en fait, elle a joué à des jeux en ligne, commence à jouer énormément, etc. Elle quitte le lycée, elle rejoint Twitch, qui est une plateforme de streaming de live en direct. À ce moment-là, elle commence à faire des lives, elle joue, elle fait des let's play. Des let's play, c'est lorsqu'on joue à un jeu vidéo et qu'on commente ce qu'on est en train de faire. À ce moment-là, elle commence à faire plusieurs interviews sur Brut, etc. Elle commence à se faire connaître petit à petit et elle se fait un nom dans le monde du stream. C'est difficile d'être une femme en fait sur les réseaux parce qu'on peut recevoir plusieurs critiques plus que si on était un homme en fait. Parce que c'est plus... Les personnes auront, en général, auront plus de facilité à critiquer une femme qu'à critiquer un homme, en fait.
Marie Shelley est née le 30 août 1797. Marie Shelley écrit Frankenstein, qui fut l'un des personnages les plus emblématiques de toute la science-fiction qui parut dans les années à venir. Frankenstein est plus ou moins l'une de ses œuvres parmi tant d'autres, puisqu'elle écrit aussi des pièces de théâtre, des poèmes ou des biographies.
Elizabeth Alexandra Mary Windsor, qui est la reine d'Angleterre. Tout d'abord, son rôle, c'est pas de gouverner le pays, mais c'est de représenter son pays.
Angela Merkel, elle a fait des études scientifiques et elle est devenue chimiste, puis elle s'est lancée dans la politique.
Une jeune femme née en 1925, s'engage en 1944, âgée de seulement 19 ans. Elle s'engage dans la résistance. En 1946, elle reçoit la croix de la guerre pour son dévouement remarquable lors de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, âgée de 90 ans, Simone Séguin affirme « Si c'était à refaire, ou je le referais parce que je ne regrette rien ».
Alors j'ai choisi Hubertine Auclert, puisque déjà elle est née en 1848, elle est morte en 1914. Donc c'est deux dates relativement faciles à retenir, parce que c'est deux dates historiques. J'ai aussi choisi Hubertine Auclert parce que c'est une grande militante pour les droits des femmes. Et en fait, elle a milité à la fois pour les droits civils des femmes, pour l'égalité civile, avoir les mêmes droits qu'un homme, et aussi les droits politiques. Elle a milité pour pouvoir se présenter à des élections. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Et le deuxième volet de son militantisme, ça a été aussi de dire, excusez-moi, que la femme, elle était maintenue dans cet état un peu de soumission, de domination par les hommes, parce que ça les arrangeait. Parce que les femmes, en réalité, elles faisaient un troisième travail presque à la maison, en plus de leur propre travail ou de leur travail de mère. Elles faisaient aussi un travail d'épouse et un travail de ménagère. Et du coup, elle a, pour la première fois dans l'histoire, mis en avant la question de la charge mentale et la question peut-être de l'entretien de ce patriarcat, parce que, messieurs, c'est quand même bien commode d'avoir quelqu'un à la maison qui fait des tâches ménagères et qu'on ne paie pas. Voilà. Et je trouve aussi que, à la fois, c'est très important d'avoir des femmes. Alors, elle n'a pas eu de chance. Elle est morte en 1914. Donc, elle n'aura pas vu
se mettre en place en France le droit de vote des femmes. Mais je crois que c'est important de lever le voile sur ce genre de femmes qui, pas à pas, doucement, subrepticement, clandestinement parfois, font avancer les choses. Et je tiens aussi à préciser pour finir qu'elle est doublement intéressante parce qu'elle a été mariée. Comme quoi, l'égalité homme-femme et le combat féministe peut et doit se faire avec nos meilleurs alliés. Et nos meilleurs alliés, ce sont largement les hommes.
Beyoncé est une artiste de 40 ans qui a marqué les débuts de la musique afro-américaine féminin du 21e siècle. Elle est chanteuse, compositrice, actrice et danseuse. Son père est celui qui lui a en quelque sorte montré ce milieu. Elle a commencé le chant très jeune, à l'âge de 8 ans, avec sa très célèbre cousine Kelly Rowland. Au fur et à mesure des années, elles formeront en 1990 le célèbre groupe Destiny's Child, qui sera l'un des groupes les plus influents entre les années 1990 et 2006. Personnalité très engagée, notamment dans la cause des femmes, mais également dans celle des Noirs, pour qui la vie peut parfois être encore aujourd'hui très dure aux États-Unis. Racisme, bavure, etc. Personnalité donc très engagée, elle crée en 2005 la Survivor Foundation avec sa famille et son ancien groupe, donc les Destiny Child, pour venir en aide aux victimes de l'ouragan Katrina, survenu en 2005.
Temple Grandin, elle est née en 1947 à Boston. C'est une chercheuse en zootechnie et en sciences animales et elle a défendu la cause du bétail ainsi que celle des autistes. Celle qui a conçu la machine à câlin qui est inspirée d'un dispositif utilisé pour vacciner les vaches et elle permet de calmer les personnes en hypertension par un effet de pression. Du coup, son autisme lui a aussi permis de comprendre et de se rapprocher des animaux qui pensaient eux aussi en images et en sons. Elle a donc imaginé des plans détaillés qui vise à rendre le bétail le plus confortable possible. Parce que, vu qu'elle avait une sorte de sixième sens animal, elle pouvait un peu comprendre genre, ce qui effrayait le bétail. Elle avait aussi mis après une grille d'évaluation très sérieuse qui se mesurait sur le nombre de meux que les vaches faisaient. Car une vache qui normalement était reposée sans stress n'avait pas à crier. Et donc, elle avait fait passer ce test aux abattoirs américains et seuls 25% d'entre eux l'avaient réussi. Du coup, mais l'influence que Temple avait, du coup, les obligea à obtenir son sorte de label, qui était très recherché par les grandes entreprises de fast-food qui cherchaient à améliorer leur image.
Fulane Devi est une femme bandit, du coup, née en 1963 en Inde. Elle a eu une courte enfance difficile et a été confiée à un vieil homme à l'âge de 10 ans. Elle se fait alors battre et violer avant son mariage. Sa mère la récupère, puis la ramène chez elle. Le mariage est donc annulé. Suite à ça, du coup, elle est humiliée par son village. Et un jour, elle est sauvée d'un viol par un mala comme elle. Il tombe amoureux. Ce sera le grand amour avec elle, mais sauf que un jour cet homme, il va se faire tuer. Et elle négocie, enfin quelques années plus tard, elle négocie alors ses conditions avec les policiers, mais elle va passer 11 ans en prison. À cette sortie, elle devient députée et donc membre du Parlement de l'Inde. Elle fait des discours. Mais du coup, une après-midi, en rentrant chez elle, elle se fait assassiner par plusieurs balles dans la tête. C'était du coup en 2001, à l'âge de 37 ans. On l'appelait la reine des bandits parce que parce qu'elle n'était pas comme les autres femmes à subir du coup le mal que faisait, que leur faisait leur mari. Parce que oui, du coup, c'était un mariage forcé de base, mais voilà. Et j'ai choisi Fulane Devi. Parce qu'elle a eu un vécu très difficile dans la violence et l'humiliation. Mais malgré cela, elle a su affronter les difficultés de sa vie Et du coup, c'est une femme exceptionnelle pour son vécu ainsi que pour sa capacité à faire de sa force pour vivre.
Les grands destins féminins.
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 Les grands destins féminins.